n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Bien pressé tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et tous. Le mercredi à 19h, on vous parle de cinéma sur Radio G. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective. Derrière le micro ce soir, il y a Cécile.
Bonjour.
Anne-Lie.
Bonsoir Nicolas.
Et on retrouvera Matt et sa chronique. Il nous fait la surprise de son humeur. On la découvre en même temps que vous, à tout à l'heure. Cécile, tu nous proposeras un portrait de la comédienne Suzanne Clément à l'occasion de la sortie du film de Sébastien Marnier, L'origine du mal, qui est en salle. Et pour débuter, un entretien avec un réalisateur. C'est aujourd'hui que sort le dernier film de Louis Garrel, L'innocent. Margot et Anne-Lie l'ont rencontré à l'occasion de l'avant-première du film pendant l'estival de Premier Plan.
Et alors pour L'innocent, le ton est donné avec affiche et bande-annonce. Il s'agit d'un joyeux film de braquage. Louis Garrel y joue aussi avec les apparences et nos attentes de spectateurs pour nous surprendre scène après scène. Alors les personnages qui font l'histoire, il y a Sylvie, comédienne de 60 ans qui a eu le coup de foudre pour Michel, une personne qui vient tout juste d'être libérée de prison. Et entre les deux, Abel, le fils de Sylvie, qui traîne sa mélancolie et qui est inquiet de tout, et notamment de la folle énergie de sa mère. Et on retrouve aussi Clémence, l'amie d'Abel, qui est très énergique, très vivante, intrépide. Alors la bande-annonce est un peu trop bavarde à mon goût, alors on ne la passera pas ici. Moi je vous invite à aller voir ce film sans trop savoir ce qui se passe. On passe un très bon moment, il y a beaucoup de surprises. Et on laisse maintenant la parole à Louis Garrel, avec qui on a pu échanger en détail sur la construction de ce film.
Bonjour Louis Garrel, vous réalisez L'innocent, votre quatrième long métrage dans lequel vous tenez aussi un des rôles principaux. Alors votre film commence par une scène très forte avec un premier plan intense tout en regard dont la signification est démentie dès le plan suivant. Dès cette séquence d'ouverture, vous nous amenez sur une fausse piste, c'est-à-dire que ce n'est pas le début d'un braquage mais bien un atelier de théâtre en détention. Comment est née pour vous l'idée de ce vrai-faux film noir ?
Vrai faux film noir, non, je pense que c'est un vrai film noir qui joue avec le faux plutôt. Donc c'était l'idée que quelqu'un est en prison et prend des cours d'acteur, et donc c'est ces cours d'acteur qu'il va utiliser pour ensuite mettre au point son braquage. C'est assez rapidement, je voulais ouvrir le film comme ça sur une fausse piste, j'aimais bien ça. Le film commençait comme on donnait la tonalité du polar et en même temps on en jouait. Donc c'est à peu près le principe du film, quoi. C'est un film comique et noir, les deux en même temps. Et donc j'espérais beaucoup que les spectateurs puissent jouer avec le film, qu'ils soient à la fois vraiment avec des règles du jeu dans la main, qu'ils soient surpris, qu'ils soient, je sais pas, pris en haleine, émus par les personnages, affectueux par les personnages, mais qu'ils puissent se dire, tiens, on va jouer. Quoi, tout le film va jouer tout le temps avec nos attentes, on va être trompé, puis ensuite on va avoir les règles du jeu avant les personnages, on va pouvoir rire des personnages, mais sans se moquer. Mais enfin voilà, que le film soit très joueur. L'ambition première quand on fait un film, c'est de que les spectateurs puissent pas prévoir ce qui va se passer. Ça, c'est, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Carrière, et lui, je voyais bien qu'à la toute fin de sa vie, puisque je l'ai connu les 10 dernières années de sa vie, il me disait, moi, ce que je veux, c'est que les spectateurs ne sachent pas ce qui va se passer à la scène suivante. Il y a que ça qui m'intéresse. La psychologie, je m'en fous. Je veux que les gens, ils ne sachent pas ce qui va se passer, parce qu'en fait, c'est ça qui les tient en haleine. Et j'ai besoin de capter l'intérêt du spectateur. Il y a deux catégories de metteurs en scène. Ça, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, c'est Chabrol. Je trouvais que c'était très bien dit. Il y a les poètes et les narrateurs. Je suis pas du tout un poète, je suis un narrateur. Et un narrateur, c'est comme quand on raconte une histoire à son enfant avant de s'endormir. Il faut qu'on capte son attention. Donc, la plupart du temps, c'est des fois surprenant, je sais pas, drôle, amusant, imagé, voilà. Donc c'est le même processus quand on fait un film, quoi. On essaie d'être le plus intéressant possible. C'est aussi même le titre L'innocent. L'innocent, ça pourrait être d'abord le personnage de Roche Dizem, puis ensuite, en apprenant plus de choses sur le passé de mon personnage, ça pourrait être aussi lui, puisqu'il est en deuil de quelque chose dont il pourrait être éventuellement coupable. Enfin bon, il y avait ce jeu-là, avec même avec le titre, quoi.
Alors du coup, vous parliez de Jean-Claude Carrière, avec qui vous aviez coécrit vos deux précédents films. Là, vous avez travaillé avec Tanguy Viel, qui est plutôt un romancier, qui publie chez aux éditions de Minuit. Et puis avec Naïla Guiguet, est-ce que vous pourriez nous dire, revenir un peu sur ce qu'ils ont apporté de leurs univers respectifs dans l'écriture du scénario ?
J'aime beaucoup, c'est vrai que souvent quand je regarde les génériques, par exemple, des films italiens, il y a des fois 5-6 scénaristes. Et je comprends très bien ça, l'idée de partager une idée, d'avoir une première idée, qui ensuite est entendue par un deuxième scénariste, qui lui-même l'interprète d'une manière différente, avec un troisième qui pourrait faire l'arbitre entre les deux. Et ça, je trouve que ça fait un espèce de jeu de tennis qui est très bon. Mais même moi, je pourrais me dire, à 4, 5, 6, on doit aussi très très bien travailler. Donc j'avais très envie de travailler avec un romancier. Tanguy a écrit beaucoup de romans et qui joue avec le cinéma, le film noir, et aussi lui-même a écrit des polars qui ne sont pas du tout sur le cinéma, tout en restant très... je dis qu'il écrit des romans, des polars existentiels, parce que je ne sais pas, ça le définit bien quand j'y pense. Et en fait, il n'avait jamais écrit de scénario. Je savais qu'il connaissait mes films, on s'est rencontrés. Il m'a dit tout de suite, tu sais, moi j'ai jamais écrit de scénario, et je lui dis, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse, ce que je veux, parce que j'avais quand même dans l'idée de faire un film pour des acteurs et pour des performances d'acteurs, j'ai besoin aussi de dialogue, et j'aime beaucoup tes dialogues, j'aime bien ta manière pas naturaliste d'écrire les dialogues, et j'aime beaucoup que ce soit un romancier comme toi qui les écrive. Donc on a travaillé tout bêtement comme, je sais pas, à la table, vraiment avec des brouillons d'histoire, des synopsis, on a travaillé plusieurs fois le synopsis, et puis après on s'est distribué les séquences. Mais j'aimais bien l'idée que, vous savez, la difficulté quand on fait un polar aussi, c'est que tout de suite nous viennent des images de films américains. Et ça, c'est très difficile parce que il faut pas avoir l'air de rivaliser avec le cinéma américain, parce que sinon on fait des espèces de, je sais pas, des répliques. Donc tout le temps, il fallait qu'on soit à la fois le cinéma américain a fait plus en masse de films noirs et de polars que nous. On en a eu quand même, notamment par Jean-Pierre Melville, qui a réussi à franciser, on pourrait dire, ou je sais pas comment on pourrait dire, le roman américain. Mais il les a vraiment fait, c'est vraiment des romans noirs français. Donc le jeu, c'était tout le temps et de s'inspirer de choses qu'on aimait, tout en se disant, ouais, mais on va le faire en France. Et notamment, on va faire le film à Lyon. Donc c'était des questions de cinéma, des questions d'écriture chez lui, que j'aimais beaucoup aussi son écriture, sa passion pour le film noir, tout en sachant que c'était aussi une citation qu'on faisait du film noir et que le film il devait rester très 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 proche des personnages, quoi, ou je sais pas, ou que c'était pas un film, le genre devait pas prendre le pas, qu'il devait y avoir vraiment un film de caractère, de personnages très forts, mais qui baignait dans un film qui tendait vers une action tout le temps, pour pas que ça soit, voilà, pour que ce soit le plus haletant possible, quoi.
Pour revenir au personnage, justement, un mot sur ce couple, Roche Dizem, Anne Gumberg, il fallait absolument que ça matche. Comment vous avez ressenti ça tout de suite, cette espèce d'alchimie comme ça?
Moi, c'est vrai que comme spectateur, quand je vois des films, je me souviens d'acteurs que j'adore et tout ça, mais beaucoup quand même de couples. Je savais que le personnage de Michel, joué par Roche Dizem, et le personnage de Sylvie, qui finalement était joué par Anne Gumberg, il fallait que les deux acteurs, bah, qu'on ait une émotion en les regardant, donc ça soit. Et c'est vrai que j'ai demandé à Anouk et à Roche Dizem de se prêter au jeu, s'ils voulaient bien faire quelques petites scènes devant moi. Et j'ai fait la scène du mariage qui ouvre le film entre deux, et tout de suite j'ai eu peur pour elle, j'étais ému pour lui, j'avais peur pour lui qu'il se fasse quitter par elle. Enfin bref, tout de suite ça marchait, et ça racontait déjà une histoire sans vraiment dérouler des dialogues, quoi. C'était narratif, leur couple était un couple de cinéma. Il y avait un truc iconique entre eux. Lui, il est très très grand, Anouk, elle est beaucoup plus petite. Enfin, je sais pas, ça fonctionnait, quoi. Ça s'explique pas. Mais c'est vrai que je souvent dans les films, quand tout d'un coup je vois que les acteurs fonctionnent pas ensemble, ils peuvent être très très bons indépendamment, mais leur couple n'est pas un couple de, ça fait pas couple de qui fait du roman, quoi. Ça fait, on reste dans le making of, on voit l'acteur et l'actrice qui sont là, qui se disent bonjour au maquillage, mais ça fabrique pas de l'imaginaire. Donc là, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que les deux ensemble, c'est vraiment, ils sont très émouvants, quoi. Je les aime beaucoup.
Mais tout à l'heure, c'est quand même assez marrant. On essaie de pas tomber dans les clichés. Qu'est-ce qu'on va voler dans un polar? On n'arrive plus à voler des lingots, on n'arrive plus à voler des banques. Alors comment on se débrouille dans ces cas-là?
Bah, c'est compliqué avec toutes les nouvelles technologies et tout qui devient virtuel, quoi. Entre les NFT, l'argent qui n'existe plus dans les coffres en banque, pour les films noirs, ça devient de plus en plus difficile de faire des films qui racontent en images un objet à voler. Donc là, j'ai trouvé au fur et à mesure de mes... J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir ce que les personnages voudraient voler, enfin l'objet convoité, quoi, le magot. Il fallait trouver surtout quelque chose qui était cinégénique. C'est toute la difficulté quand on fait un film. Il peut y avoir des très bonnes idées qui peuvent être des idées, ça je reviens à la première question avec Tanguy, il peut y avoir des idées qui sont des bonnes idées de roman, mais qui ne sont pas des bonnes idées de cinéma. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai observé en travaillant avec Jean-Claude Carrière. C'était lui, sa virtuosité, à avoir toujours des... Quand il écrivait, c'était pas forcément très expressif, mais mis en image, c'était très expressif toujours. Parce que c'est de l'écriture, c'est pas de l'écriture de... L'écriture de cinéma, c'est doit être vraiment une écriture qui se porte en image. C'est vrai que dans ses entretiens, par exemple, quand Hitchcock dit que lui... Il a fait des films muets et qu'il a raconté ses films sans son et qu'il a continué à garder cette gymnastique-là de dire qu'un film, ça doit vraiment se raconter avec des images. Il faut toujours avoir ça en tête, quoi. Il y a maintenant des choses qu'on peut pas faire autrement qu'avec des dialogues. Mais le plus les films se racontent, que on se dit, tiens, s'il manquait le son, est-ce que les spectateurs comprendraient? Je me pose souvent la question, je me dis, j'espère vraiment qu'ils arrivent quand même à suivre un peu l'histoire. Plus c'est imagé, plus c'est mieux, c'est quoi.
Alors tout le film est... Tout au long du film, on retrouve des actions, des scènes qui se répondent, qui se font écho. Et sans rien dévoiler, on peut penser à la scène du mariage en prison, à la mer, là où elle rencontre ses amoureux, comment elle va suivre le camion de la pénitentiaire, ou même le braquage, l'idée de braquage, qui est sans doute une redite du passé de Michel. Comment est-ce que vous avez construit votre film autour de ces motifs, de cette récurrence ?
Pareil, il fallait qu'il y ait une vérité de cinéma, et c'est vrai qu'il y a un plaisir aussi à avoir des boucles qui se terminent bien et qu'on laisse pas trop les choses dans le vague. Après, je pourrais pas vous dire exactement comment est-ce qu'on a fait. Ce qui était sûr, c'est que j'aimais beaucoup l'idée d'un changement de registre permanent, ou plutôt d'un ton qui serait constamment entre le drame, voire la tragédie, c'est-à-dire des personnages qui sont vraiment... Là, il s'agit d'une femme de 60 ans qui se remarie, qui va espérer peut-être une dernière histoire d'amour, et que si cette dernière histoire d'amour termine, ça serait tragique, ça serait une tragédie sentimentale ou une tragédie affective, mais que tout le temps, en permanence, il y ait quand même la comédie qui vienne soutenir ces espèces de trajectoires comme ça de personnages. Donc j'essayais tout le temps de changer de registre en permanence du film, que le film soit vraiment pas monotone. J'avais dit, voilà, là on est dans une espèce de chronique comique, là c'est la scène de boulevard, là c'est la scène du film d'action, là c'est la scène du film de braquage, mais même j'ai essayé d'inviter Marivaux dans la scène de braquage. Donc j'essayais tout le temps de faire des mélanges. Après, on est toujours un peu plein d'orgueil. On se dit toujours, bon, je m'inspire de ça, puis j'essaye de faire des situations qui n'ont jamais encore été faites. C'est toujours l'ambition quand on fait un film. Donc le plus, la chose me disait, tiens, je ne l'ai jamais vu, peut-être ça ne marchera pas, mais en tout cas, essayons d'inventer ça, on ne l'a jamais fait. C'était le pari pendant tout le travail, quoi.
Alors j'aimerais revenir... Maintenant sur les nombreuses scènes de théâtre en fait qu'il y a dans le film, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant et tout à fait passionnant, puisque là, comme on en parlait tout à l'heure, le film s'ouvre sur un atelier de théâtre, et puis après il y a une scène de répétition du braquage, et puis une dernière scène de mise en pratique dont on dévoilera peut-être pas tout. Mais du coup, il me semble que dans le film, il y a vraiment, vous avez l'art d'entretenir ce trouble entre le vrai et le faux, entre ce que les personnages incarnent, ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas finalement. Et du coup, je me demandais comment pour vous s'articuler le mensonge et la sincérité chez vos personnages.
C'est même ça, c'est une leçon de Marivaux que j'ai peut-être un tout petit peu apprise, en tout cas que lui a étudié beaucoup, c'est que bizarrement le vrai sentiment n'existe pas comme ça. Pas comment dire, c'est toujours en imitant un sentiment que le sentiment vient. Ça, c'est vraiment aussi une thématique de l'acteur, on pourrait dire, qui pourrait être parfois piégé dans des situations qu'il a à jouer et qui se retrouve à devenir vraiment en colère alors qu'il a fait semblant d'être en colère. Mais je pense que dans nos vies, on n'a pas besoin d'être acteur pour le comprendre. Des fois, on fait semblant, je sais pas, d'être triste pour se sortir d'une situation embarrassante, et puis la tristesse vient. On sait pas pourquoi, parce que c'est comme si l'inconscient voyait qu'il y avait une imitation de la tristesse et après son être devient triste. Donc il y avait l'idée de jouer avec ça au sein même de situations qui étaient dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de voir ça. Après, alors peut-être au théâtre c'est un peu plus différent, mais j'avais lu une interview de Michel Bouquet quand j'étais plus jeune qui m'avait vraiment marqué, qui disait quand vous vous faites mal sur scène, Vous devez absolument pas faire peur au spectateur, il doit pas avoir peur pour vous, il doit avoir peur pour le personnage. Donc la manière dont vous vous faites mal, elle doit être d'une certaine manière théâtrale. Et ça, c'est une chose qui me plaisait beaucoup, enfin qui me plaît toujours beaucoup, parce que même quand je vois des acteurs au cinéma et je vois qu'ils se sont fait mal, j'ai des fois du mal à regarder. J'aime pas du tout ça, de voir des acteurs qui se font mal, mais pas seulement physiquement, mais qui se sont, je sais pas, je vois qu'ils se font trop de mal. Donc c'est un rapport entre c'est la marionnette. C'est-à-dire que je peux pleurer aussi avec une marionnette. Il m'est arrivé de voir un marionnettiste qui manipule tellement bien et qui représente tellement un mouvement qui est complètement de marionnette. Je ne sais pas, la représentation de cette pitié-là ou de cette peine-là m'émeut. On ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est un truc qui me fascine dans la représentation que les acteurs ont à faire des sentiments humains. Quoi. C'est-à-dire que ça ne doit pas être vrai, ça doit pas être la même chose que dans la vie. Ça doit emprunter à la vie et trouver une nouvelle forme qui soit une forme de représentation. La forme de représentation la plus agréable pour le spectateur ou avec laquelle il peut vraiment avoir le plus de plaisir. Même si c'est une scène de tristesse. Donc c'était ce jeu-là que j'avais envie de jouer avec les acteurs qui jouent des personnages qui ne sont pas du tout acteurs, mais qui, pour certains, ont du talent pour ça, d'autres qui n'ont pas de talent et qui vont se retrouver à avoir du talent parce qu'ils convoquent des choses très sincères chez eux. Enfin bon, c'était toute une mise en abîme qui pourrait être un peu, je ne sais pas, de ce qu'il y a chez Luigi Pirandello ou des trucs comme ça.
Voilà. Alors, par curiosité, pourquoi est-ce que vous mettez on a l'impression que vous mettez en parallèle, d'une certaine manière, le braquage et le jeu de l'acteur, c'est-à-dire qu'il y a ce couple entre Michel qui est braqueur, enfin qui a fait de la prison en tout cas, et puis Sylvie qui elle est comédienne, et on a l'impression qu'à plusieurs reprises il y a ce parallèle. Alors je ne sais pas si c'est une bonne question, une bonne interprétation ou pas, si je fais fausse route à mon tour.
Non, ce que j'avais vu, c'est que même, puisque moi je m'inspire de choses un peu, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient été en prison, et il m'avait marqué à quel point, j'avais discuté par exemple avec quelqu'un qui venait de faire 7 ans de prison, et qui continuait à mystifier des grandes figures du banditisme, c'est-à-dire je voyais d'une certaine manière qu'il continuait à rêver à la vie de certaines figures du banditisme alors qu'il venait d'avoir 7 ans de prison. Et je me suis dit, d'une certaine manière, c'est aussi un truc de l'enfance de jouer au voleur. Alors quand même, quand on s'est heurté à la réalité de 7 années de prison, qui sont franchement pas, ce qui est pas franchement pas un truc agréable, j'imagine. Et du coup, ça me fascinait de voir comment les braqueurs jouaient aussi encore aux gendarmes, aux voleurs, quoi. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés par la prison, trucs comme ça, qui sont devenus acteurs ou qui ont joué, parce que il faut aussi jouer, j'imagine, dans ce milieu-là, beaucoup de personnages, de rôles. Il faut jouer la sincérité, il faut pouvoir mentir. Enfin, bon.
Tout le début du film, on ne sait pas s'il y aura vraiment braquage tel qu'annoncé. On peut croire qu'on est juste dans les inquiétudes d'Abel. Est-ce qu'il est dans une parano vis-à-vis de sa mère qu'il a envie de protéger? On le suit dans des filatures plus ou moins réussies. Et au moment de la bascule, entre la suspicion et la révélation que quelque chose se trame effectivement, on voit que tout tourne autour de Sylvie. On voit tous les personnages se référer à elle, la possibilité qu'elle puisse être heureuse, l'envie de son bonheur, enfin, tout se parle, c'est vraiment un écho qui est important. Pour vous, que représente ce personnage de Sylvie, qui à ce moment-là est un peu un point central ?
On pourrait dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les optimistes et les pessimistes. Moi, le personnage du fils que j'interprète, c'est un pessimiste. Et le personnage de la mère est optimiste. C'est-à-dire qu'elle elle ne va jamais renoncer à une joie qui apparaît comme une joie de son enfance. Enfin, je sais pas, elle a 60 ans, elle a rencontré quelqu'un en prison, elle va se marier avec lui, et il va sortir, tout va bien se passer entre eux. Et c'est cette espèce de force que le fils... qui va inquiéter le fils, mais qui va aussi permettre au fils de vivre une aventure qu'il n'aurait jamais pu vivre ailleurs grâce à sa mère. Donc la mère, elle est à la fois l'élément inquiétant et en même temps l'élément, moteur, quoi, de tout le monde. Donc elle rayonne sur la vie des deux personnages, celui de Michel et celui d'Abel. Bah, elle est le personnage sans qui il n'y a rien qui se passe, quoi. Tout le monde, Michel est amoureux d'elle et le fils essaye de la protéger de sa joie folle de mère qui a encore 15 ans, quoi.
Et c'est aussi un personnage qui est porté par l'amour, qui tient vraiment à ça, enfin presque de façon folle, effectivement. Elle peut être inquiétante, des personnages lui disent « là, tu me fais peur aussi ». Et justement, on a eu l'impression, ou on a pu se poser la question, est-ce que c'est pas l'amour qui est le moteur de l'action de tous ces personnages, d'une façon ou d'une autre ?
Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaisait quand j'écrivais, c'est-à-dire la motivation, c'était pas l'enrichissement, c'était pas il voulait pas être malfaisant vis-à-vis de quelqu'un, il laisse passer un braquage par amour, quoi, c'est-à-dire, ou par amour du fils pour la mère, par amour du mari pour sa femme. Du coup, ça fait un braquage sentimental, quoi.
Et l'autre personnage féminin fort du film, c'est Clémence, qui est jouée par Noémie Merlant. Avant qu'on enregistre, vous avez parlé de clown aussi pour ce personnage. Alors, c'est un personnage exubérant, audacieux, qui n'a pas du tout peur de se lancer dans des projets insensés, sans se poser de questions, qui est très enthousiaste aussi, optimiste. Comment vous avez imaginé ce personnage ?
Ah, il fallait tout de suite une... Même si je me réfère, j'aime pas trop toujours donner des références américaines, mais il fallait que ça soit Catherine Hepburn, quoi. Il fallait qu'elle soit hardie, courageuse, vaillante, fantasque, amusante. Il fallait que ça soit la meilleure amie rêvée. C'est-à-dire celle qui a une pulsion de vie tellement forte que les jours de tristesse ou les jours de mélancolie, bon, bah, elle fait changer l'humeur. Et c'est vrai que dans l'action, elle se retrouve vraiment très très moteur, ce qui fait qu'elle est, bah, elle est courageuse, quoi. C'est Harrison Ford dans Indiana Jones, je sais pas. C'est, elle est... Et puis elle est, je sais pas, elle a un charme fou, j'adore ce personnage, je l'aime beaucoup. J'ai tout de suite vu que Noémie, quand elle lisait le scénario, je sentais qu'elle l'aimait. Et ça, il n'y a rien, il n'y a jamais un meilleur signe quand on voit qu'un acteur tombe un peu amoureux de son propre personnage, parce qu'il va lui donner beaucoup. Et là, je trouve qu'elle lui a donné beaucoup, et c'est à la fois elle, et en même temps pas du tout elle. Elle est à la fois comme ça dans la vie un peu, elle a emprunté des choses à elle-même, mais donc elle a fait ce personnage, je trouve, une vraie création, quoi.
Vous avez parlé de Catherine Hepburn, de Harrison Ford. Alors, je sais pas, mais moi, quand je l'ai vu débarquer avec sa combinaison, j'ai vraiment pensé à Kill Bill, en fait, à un personnage en mission. Et puis à Natasha Kinski avec son pull rose un peu plus tard.
Peut-être Kill Bill déjà plus que Natasha Kinski dans Paris Texas, parce que dans Kill Bill, ici, c'est pour ça que les films de Tarantino sont si géniaux, c'est que là, tout d'un coup, les personnages de filles dans ces films, c'est des Amazones. À côté, il peut rien, on n'a pas peur pour elle. Et au contraire, quand tout d'un coup elle se met en action, on se sent plus rassuré que ce soit elle que les garçons, parce que les garçons ont l'air un peu bas du front. Et donc il y a quelque chose comme ça, que ça c'était beaucoup avec Naïla, qu'on a écrit le personnage. Et elle nous faisait rire, quoi, même en écrivant, elle nous faisait rire. On se disait, putain, ce personnage, on l'aime bien. C'est vrai que quand on écrit un film, j'aime bien, quand je sens que les personnages sont assez définis, je me dis, tiens, ils existent, ça y est, je peux les imaginer. Pas forcément avec le visage de l'acteur, d'ailleurs, qui va les interpréter. Au final, maintenant, Clémence, c'est Noémie Merlant. Mais je me disais, avant qu'elle l'interprète, et je la vois, elle est organique, elle existe, quoi.
Alors, peut-être une dernière question pour finir. On a trouvé que votre film était vraiment très beau visuellement. Et qu'en sortant de la salle, en fait, on gardait le souvenir d'images fortes, notamment celle des silhouettes noires qui se déplacent le long de fonds colorés. Alors, je pense notamment à Roche Dizem qui passe devant la cathédrale de Lyon, je sais pas. Et puis dans le centre océanique. Du coup, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre directeur de la photographie, Julien Poupard?
Poupard, j'avais travaillé avec lui sur La Croisade, et sur La Croisade, je lui ai dit, écoute, c'est un film qui se passe maintenant avec des enfants, tu me fais comme un reportage télévisuel, je veux pas que ça soit travaillé spécialement, on a une image qui est poétique, qui est là, dans la forêt, mais même pas besoin que tu me fasses beaucoup de lumière, ça sera fait avec les lampes torches des enfants. Là, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on arrive à décaler, qu'on soit romanesque. Donc, je lui avais beaucoup parlé, bizarrement, d'un film que j'adore. C'est une référence américaine. C'est un peu chiant, mais il y a un film qui s'appelle Uncut Gems des frères Safdie, que je trouvais très nerveux. Ils avaient travaillé en 35 mm. Ils avaient mélangé aussi du numérique. Là, je savais, j'ai dit, écoute, on fait passer un casting à la caméra, on prend la caméra 35 mm et on prend la caméra numérique. Il a utilisé une nouvelle caméra numérique et les essais ont été plus concluants que la caméra numérique, ce qui m'a bien embarrassé, mais ce qui a aidé le directeur de production, parce que ça coûte plus cher la pellicule, mais bon, le numérique a gagné. Et donc, il m'a dit, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je vais, avec l'étalonneur qui s'appelle Yov, on va travailler en amont du tournage, on va faire des essais, qu'on va filmer avec toi, tout ça, et on va travailler sur une espèce de texture et qu'ils appellent une lutte, en fait. On a travaillé assez longtemps, on s'est repris à deux, trois fois. Il m'a dit, est-ce que ça t'aime bien, ça? Et j'ai dit, ah là, j'y crois, là, c'est du roman. Et j'aime bien le romanisme du truc, plus la ville de Lyon, je sais pas, donc c'est beaucoup comme ça. Mais je pense aussi qu'il a travaillé beaucoup avec son chef électricien, et qu'à un moment donné, ils ont été inspirés, quoi, sur le film, ça les a. Cette espèce d'idée qu'on avait de filmer le centre-ville très typique de Lyon, quasiment des images touristiques, enfin, la pérégrination touristique dans Lyon, et des zones périurbaines ou quasiment d'autoroutes. On avait ces deux axes-là. Il fallait pas que ça soit au milieu, il fallait pas que ça soit des centres-villes trop urbains. Il fallait que ça soit vraiment un contraste entre l'autoroute et le centre-ville. Je sais pas, tout d'un coup, ça nous a désinhibés. Et c'est vrai que je suis très admiratif de ce qu'il a fait à l'image. Parce que c'est à la fois un peu hors temps, mais tout en étant un film de maintenant, quoi. Il est arrivé aussi, je pense, à citer peut-être les années 80, oui, d'une certaine manière, et en même temps à garder un film de maintenant. C'est bien, ça rend le film, ce que je dirais, ouais, romanesque, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui pas tout à fait la réalité, mais un peu avec les attributs de ce qu'on connaît, quoi.
Merci Louis Garrel.
C'était Louis Garrel à propos de son dernier film L'Innocent, qui est en salle depuis aujourd'hui. On écoute un titre issu de la bande originale, Imashi de Gianna Nannini.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Avrai di più quando fa sera, il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento, parlami ancora un po'.
Vous écoutez Caméra Subjective, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio G.
Cécile, tu nous parles maintenant de Suzanne Clément, comédienne, que tu as rencontrée sur un tournage où tu jouais également. celui de L'origine du mal de Sébastien Marnier. Il est sorti en salle le 5 octobre.
Oui Nicolas, j'ai choisi de vous parler de la comédienne Suzanne Clément, car j'ai eu la chance de tourner une scène avec elle dans ce film. Le tournage était à Nantes, j'y incarne une surveillante pénitentiaire qui intervient de manière musclée dans les douches d'une prison pour femmes. En attendant notre moment, je fais quelques pas pour me dégourdir les jambes. Le costume de surveillante pénitentiaire me donne de l'assurance et j'ai l'impression d'être d'un bloc avec mes docks et ma veste bleue. Et je la vois arriver, dans son peignoir blanc, les mains dans les poches, pieds nus. Elle dégage une énergie incroyable, avec son regard droit et sa marche déterminée. La scène se prépare. C'est la comédienne et danseuse Blandine Léniel qui lui donne la réplique et avec qui elle devra se battre. Après un dernier filage de l'action avec Manu, le répétiteur cascade, voilà Suzanne et Blandine d'attaque pour leur baston. Dans une chorégraphie de mouvements brutaux, les deux comédiennes s'affrontent avec violence. Dans une interview à Téléjournal de Radio-Canada Info, Suzanne Clément raconte qu'elle aime beaucoup les défis et que la scène de bataille qu'elle a tournée nue dans les douches en était un pour elle.
Je pense que moi, j'aime beaucoup les défis dans la vie. J'en ai fait plus d'un. L'année passée, j'avais fait une scène de bataille dans une douche en prison, dans un tournage en France, puis nue. C'est pas pour exciter personne, là, parce que c'est pas ça, là, mais c'est le niveau d'intensité, d'exigence. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai dit oui à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et donc, mais c'est sûr qu'une fois que tu le fais, puis que tu réussis à le faire, puis que tu trouves l'énigme dans ta tête de comment je vais réussir à faire ça, cette chose-là, ça devient addictif aussi, puis c'est ça qui nous amène plus loin aussi, évidemment, puis qui nous fait découvrir des zones de nous-mêmes qu'on connaissait pas.
Lorsque j'évoque l'actrice, certains ont du mal à mettre un visage sur son nom, d'autres un nom sur son visage. Suzanne Clément est donc québécoise. Et comme beaucoup de Français, je l'ai découvert dans les films de Xavier Dolan. Elle est connue pour ses rôles dans « J'ai tué ma mère » en 2019, dans « Lawrence Anyways » en 2012 et « Mummy » en 2014. Après ces films, elle a vécu à Paris et a joué dans plus d'une quinzaine de films et séries français. Aujourd'hui, elle est retournée vivre à Montréal. Suzanne Clément, je la vois comme un félin, prédatrice et instinctive. Dans L'origine du mal, son personnage est captif psychologiquement et physiquement. Elle n'a de cesse de se sentir impuissante et prisonnière émotionnellement. Cette tension est palpable dans son jeu sec et nerveux. Cette énergie brute est comme un uppercut, mais dissimule une fragilité. Suzanne Clément prouve une fois de plus à travers son personnage sa capacité à maîtriser un rôle borderline sans phare. La distribution dans L'origine du mal est incroyable. Suzanne Clément donc est aussi Dominique Blanc, Jacques Weber, Laure Calamy, Dory Attillier, Véronique Ruggia, Céleste Brunkel. Ce thriller psychologique débute avec le personnage de Stéphane, Laure Calamy, ouvrière dans une conserverie, qui reprend contact avec Serge, ce père qu'elle n'a jamais connu. Elle découvre alors un homme extrêmement riche, reclus dans une luxueuse villa en bord de mer et entouré de femmes. Son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle et une domestique inquiétante. Toutes cherchent à le déstabiliser. Pour les impressionner, Stéphane s'invente une autre vie. Les jalousies et les rancœurs commencent à fracturer la famille. La famille. Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on a dans le sang qui contamine et qui rend malade. C'est ce que déclare Jeanne, Céleste Brunkel, à Stéphane. Le spectateur se fait rapidement un avis sur les profils des personnages, mais plus on avance dans l'histoire, plus on remet en question nos préjugés. Qui tire véritablement les ficelles? Quelqu'un ment, le mal se répand. En regardant l'affiche, j'ai été interpellée par un détail troublant. Pourquoi Suzanne Clément n'est-elle pas sur l'affiche alors que son nom y figure aux côtés des autres? Des questions se bousculent dans ma tête. Son agent a-t-il refusé qu'elle soit sur l'affiche? Était-elle malade le jour de la photo? Ou son absence a-t-elle une signification? Je vous invite à découvrir ou redécouvrir l'explosive Suzanne Clément dans L'origine du mal de Sébastien Marnier, en salle depuis mercredi 5 octobre. Et si son actualité canadienne vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans la série Stat où elle incarne Emmanuelle Saint-Cyr, une urgentologue. Un autre défi pour elle.
Fin de Caméra Subjective. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous vous retrouve dans 2 semaines. Le programme s'écrit de jour en jour. D'ici là, vous pouvez nous réécouter. L'émission est en intégralité sur le site de Radio G à la page de l'émission. Il y a les podcasts et vous retrouvez aussi toutes les infos de ce dont on a parlé ce soir. Et Cécile, avant de se quitter, tu voulais partager une petite info avec nous.
Oui, merci Anne-Lie. Effectivement, il y aura une projection de Prisoner, une web-série de quelques épisodes qui seront diffusés salle 4 au 4 Allées François Mitterrand à Angers ce vendredi 14 octobre à partir de 20h. Prisoner, c'est la web-série d'Ingrid Franqui.
Et tu as joué dedans?
Et j'ai joué dedans.
C'est pour ça qu'on est heureux d'en parler. Et ce sera à l'espace culturel de l'Université d'Angers. Merci, bonne soirée.
Merci.
Your life. Ono tu se le ki polo tous tous. I say hello to some ma ki polo tous tous. Say hey, yo, what's your plan, so? You gon' be the man and the man for the man breaks you. And drama and love and pillage and I say hey, yo, what's your plan, so? Don't you got mules and a bunch of land, too?
Got a bunch of land, too?
Indeed, got trees with branches bear fruit. Ain't nothing fast food. The old and the slow, young and the fat losing. Ain't nothing here free, even tax Jack Moore.
Radio G 101.5 FM.
Up above my throne, eyes on the landscape, friends are gone. Is there a single song? Pause, time, I'm ready to go. Oh, waking up tired,
oh, so tired,
running on the sand. Sad, 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 sad. Did you see the cliff when it started to run?